Le petit Johannes, chapitre 4. Mes frères, quel ennui qu'un tel été! Soupira un des grands poètes qui, relégué au grenier dans un coin noir, échangeait des propos moroses. Des semaines durant, continua-t-il, je n'y aperçus âme qui vive ni entendu de paroles raisonnables, et puis avoir toujours le ventre creux, c'est odieux. Moi, j'ai l'estomac plein d'araignées. Voilà ce qu'on ne verra pas en hiver, grommela le second fourneau, et je suis si rouillé que j'en aurai honte quand, à l'automne, viendra le ramoneur avec sa laide figure mal débarbouillée. Halte ! Il ne me plaît pas qu'on parle de la sorte de quelqu'un dont nous sommes les obligés, interrompit le premier poète, qui était l'aîné. À leur tour, quelques pincettes et des pelles à charbon qui gisaient enveloppées dans du papier donnèrent à entendre qu'elle réprouvait de telles paroles. Soudain, l'entretien s'interrompit. La trappe se soulevait et un rayon de lumière éclaira le désordre poudreux du grenier. C'était Johannes qui troublait le colloque. Cet endroit avait toujours eu sur son esprit un puissant attrait. Surtout depuis les récents événements, il s'y réfugiait fréquemment pour trouver le calme et l'isolement. Une lucarne y avait vue sur la dune. Quelle jouissance que de l'ouvrir et de voir, par contraste avec l'obscurité mystérieuse du grenier, s'étaler le paysage ensoleillé jusqu'aux dunes lointaines, aux lignes molles et onduleuses. Depuis 3 semaines, Johannes était sans nouvelles de son ami. Plus de clé d'heure entre sa main pour attester qu'il n'avait point revu. Parfois, à grand renfort de raisonnement, il tentait de bannir un soupçon qui l'envahissait. N'avait-il pas été le haut-chef de sa propre fantaisie? Il demeurait taciturne, et une anxiété le talonnait sans relâche. Son père fit remarquer que, depuis son escapade, l'enfant devait couver quelque maladie. Il n'en était rien heureusement. Seulement, il languissait après Liseron. « M'aime-t-il autant que je l'aime ?» se demanda-t-il, tandis que, par la fenêtre, il se penchait au-dessus du jardin en fleurs. « Pourquoi ne vient-il pas me retrouver ?»« Ah, si je pouvais !» Sans doute a-t-il des amis qu'il me préfère. Moi, je suis seul et je n'aime que lui. Au-dessus de la maison, sur l'azur profonde, 6 ramiers blancs voletaient, avec un clair bruit d'ailes. À toute reprise, ils changeaient leur vol comme pour épuiser les délices de cette mer de soleil dans laquelle ils baignent. Soudain, ils s'abattirent sur la lucarne près de Johannes. Ils glissèrent jusqu'à la gouttière, allant et venant d'un pas maniéré, en roucoulant. Un ramier portait une plume rouge à son aile. Il y tira tant qu'à la fin il l'arracha et, la tenant dans son bec, s'avança vers Johannes. À peine celui-ci l'eut-il saisi qu'il fut aussi léger qu'un oiseau. Ses bras étaient des ailes qu'il déploya. Il prit son essor dans le ciel libre et sans borne, tout éclatant de magnificence. Rien ne l'entourait que le vierge azur et les ramiers, ses compagnons. Ils franchirent le grand jardin en se dirigeant vers la forêt lointaine, dont les cimes figuraient des flots mouvants de verdure. Johannes, en abaissant les yeux, aperçut son père devant la fenêtre de son cabinet. Simon, sur la pluie, les deux pattes de devant croisées, se prélassaient dans le soleil. Me reconnaîtrait-il? Mais il n'osa appeler. Presto couraillait par les sentiers, flairant dans toutes les broussailles, derrière chaque mur, grattant au seuil des serres, en quête de son maître disparu. Presto! Presto! Cria Johannes. Le chien leva son museau, agita la queue en jappant. « Je reviendrai, Presto, attends-moi » Mais Johannes, déjà, était loin. Il planait au-dessus de la forêt et les corneilles en croissant sortaient des hautes branches fourchues où elles nichaient. L'été était radieux et la senteur des tilleuls en fleurs montait des profondeurs du bois en bouffées embaumées. Dans un nid élevé, Liseron se trouvait assis, les cheveux entrelacés de corolles. Il sourit. « C'est bien à toi d'être venu. Je t'ai fait chercher. Si tu le veux, nous demeurerons maintenant longtemps ensemble. »« Ah, volontiers !» dit Johannes. Il remercia les ramiers obligeantes qu'il avait guidées et descendit avec Liseron dans le bois. Une fraîcheur ombreuse y régnait. Le loriot sifflait son air toujours le même, qui résonne chaque fois d'une façon nouvelle. « La pauvre bête !» dit Liseron. Il commença par être un oiseau de paradis, ce qui se reconnaît encore à son plumage d'un jaune bizarre. Mais il a bien changé depuis qu'il fut banni du séjour de béatitude. Le mot qui peut l'y faire rentrer, lui rendre ses chatoyantes parures, il a oublié. Sans cesse il le cherche, et ceux qui trouvent en approche sans l'être jamais. Dans les rayons dardés à travers la sombre verdure, voletaient d'innombrables mouches au corselet de cristal. Leur bourdonnement, pareil à un vaste et monotone concert, semblait le chant de la lumière. Une mousse épaisse d'un vert foncé tapissait le sol, et Johannes était redevenu si petit que cette mousse lui apparaissait, au-dessous de la grande, une forêt nouvelle et très dense aux branchages délicats. Ils atteignirent un sentier de fourmis. Des multitudes de fourmis allaient et venaient, affairées. Quelques-unes portaient des parcelles de bois, des morceaux de feuilles ou des brins d'herbe entre leurs mandibules. Il y avait une telle agitation que Johannes sentit la tête lui tourner. Il dura longtemps avant qu'une fourmi leur adressât la parole, tant elle était occupée. Enfin, ils rencontrèrent une vieille fourmi préposée à la garde des pucerons à miel. Comme son troupeau se reposait, elle eut le loisir de conduire les étrangers et de leur montrer le grand nid, situé au pied d'un gros tronc d'arbre. Il était vaste et fait de centaines de couloirs et de logettes. La gardeuse de pucerons donnait des éclaircissements et chaperonnait les visiteurs jusque dans les nurseries où on sortait les larves de leur longe. Johannes était stupéfait et ravi. La vieille fourmi raconta que tout se trouvait sens dessus dessous, la guerre étant imminente. On devait assaillir en masse une fourmilière voisine, la saccager, enlever ou exterminer les larves. À cet effet, toutes les fourmis n'étaient pas de trop et l'emportaient d'achever au plus tôt les travaux urgents. « Pourquoi cette expédition ?» s'informa Johannes. « Ce n'est pas beau de se conduire ainsi. »« Au contraire, répliqua la gardeuse, rien de plus beau ni de plus louable. Remarquez que ce sont des fourmis de combat que nous allons attaquer. Nous allons décimer leur race, il n'y a pas d'œuvre plus méritoire. » « Alors, vous n'êtes pas des fourmis de combat ?»« Du tout. Qu'allez-vous penser là ? Nous sommes les fourmis de la paix. » »«
Qu'entendez-vous par ce mot ?»« Je vais vous le dire. Jadis, les fourmis étaient sans cesse occupées à lutter entre elles. Nul jour ne s'écoulait sans massacre. Alors apparut sur la terre une bonne fourmi, pleine de sagesse, et elle s'avisa que ce serait s'épargner beaucoup de pain que de convenir entre fourmis de ne plus guerroyer. Pour la châtier de cette doctrine, qui paraissait au moins singulière, on la mit en pièces. Mais, peu à peu, ses idées firent du chemin, et les adeptes devinrent si nombreux que leurs adversaires durent renoncer à les persécuter. Les premières prirent le nom de fourmis de la paix, proclamèrent qu'elles détenaient seules la vérité, et mirent à mort quiconque osa les contredire. Elles régnèrent donc sans conteste, et les reliques de celui qui prêcha leur foi sont profondément vénérées. Nous possédons son crâne, le seul, le vrai. Déjà, nous avons anéanti 12 fourmilières qui prétendaient à tort détenir le vrai crâne. Il en reste 4 encore. Elles se disent des fourmis de la paix sans avoir aucun droit à ce titre. Le prophète n'avait qu'une tête sur les épaules, Cette tête, nous la possédons, nos rivaux sont donc des imposteurs. Au premier jour, nous allons détruire notre 13e ennemi. Pas d'entreprise plus digne de louange.
Assurément, concéda Johannes.
Au fond, il n'était pas tout à fait tranquille. Il se sentit beaucoup plus à l'aise après que Liceron et lui eurent pris congé de l'obligeante gardeuse et qu'à une certaine distance, ils se reposèrent sur un brin d'arbre à l'ombre d'une feuille de fougère.
« Ouf !» soupira Johannes. « Voilà des créatures bien sanguinaires et bornées. »
Liceron riait en se balançant. « Oh ! » fit-il, « ne dis point qu'elles sont bornées. Les hommes ont pris les fourmis pour modèles. » Ainsi, Liceron révéla à Johannes les merveilles de la forêt. Ensemble, ils s'approchaient des nichées dans les hautes branches des arbres et dans les broussailles épaisses. Ils descendaient aux demeures des taupes et visitèrent une ruche d'abeilles dans un vieux tronc d'arbre. Enfin, ils atteignirent une clairière bordée d'arbustes. Partout, les liens du chèvrefeuille s'entrelaçaient au branchage et ses bouquets de fleurs odorantes rayonnaient dans les verdures. Des mésanges y voletaient entre les feuillages, tout bruissant de leurs chants et de leurs gazouillis.
« Quel endroit ravissant ! » dit Johannes. « Arrêtons-nous. »«
Volontiers, » répondit Liceron, « et nous n'y serons pas de longtemps sans assister à un réjouissant spectacle. » Parmi l'herbe se balançaient des clochettes bleues. Johannes alla s'asseoir auprès de l'une d'elles et lui parla des abeilles et des papillons avec qui elle était très liée.
« Quoi encore ? » Une grande ombre obscurcit le gazon, et quelque chose qui ressemblait à un nuage blond s'abattit sur la pauvre corolle. À peine Johannes eut-il le temps de se garer. Il se retira auprès de Liceron, qui était perché sur une fleur de chèvrefeuille. Le nuage n'était rien d'autre qu'un mouchoir de poche, et boum ! Une grosse dame s'assit sur le mouchoir, aplatissant de ce fait la fleurette qui était dessous. Johannes n'eut pas le temps de la plaindre. Un fracas de branches brisées et des clameurs emplirent la forêt, profanant sa solitude et son silence.
« On va rire !» fit Liceron. Des femmes embarrassées de cabas et de parapluies, des hommes coiffés de tubes rigides et funèbres, les uns et les autres vêtus de noir et fessant dans la verdure ensoleillée, le même effet que des placards d'encre sur un beau tableau, envahissaient la clairière. On rudoya des arbustes, on piétina des fleurs. Maintes mouchoirs furent étalés, et les herbes résignées, les mousses patientes soupirèrent sous les masses qui les accablaient. Ah ! Pourrait-elle jamais se relever d'un tel coup ? De la fumée de tabac flotta parmi les chèvrefeuilles et corrompit leur tendre senteur. La troupe de mésanges se réfugia avec des cris d'effroi et de scandale dans un arbre voisin. Un homme, apparemment un jeune prédicant, se leva et se jugea sur un tertre. Il avait de longs cheveux filasses, un visage pâle. Après qu'il eut débité quelques phrases, tous les assistants, ouvrant une large bouche, entonnèrent un psaume. Il faisait un tel tapage que les corneilles s'envolèrent de leur nid en croissant et que les jeunes lapins, qui s'étaient approchés par curiosité, détalèrent. Hors des dangers, dans les dunes, ils fuyaient encore, toujours plus loin, devant eux, saisis d'une terreur panique. Liceron, souriante, éloigna la buée des cigares en balançant une feuille de fougère. Johannes eut des larmes aux yeux, mais ce n'était pas l'âcreté du tabac qui faisait couler ses pleurs. « Liceron, dit-il, partons. Tout ceci est si laide et si pénible. Demeurons, au contraire, cela deviendra de plus en plus drôle. » Les chants s'entourant pire, et l'homme au visage pâle reprit la parole. Il cria à tue-tête pour que tous pussent l'entendre. Son discours semblait abonder en sentiments généreux. Il prêchait que tous les hommes sont frères, il parla des charmes de la nature, du soleil, de Dieu, des merveilles de l'univers, des oiseaux, des fleurs. « Que dit-il là ? » demanda Johannes, Le connais-tu et seras-tu de tes amis?
Liceron plein de dédain, c'est quoi son front couronné de guirlandes?
Il ne sait rien du soleil, ni des oiseaux, ni des fleurs, il radote.
La troupe écoutait de toutes ses oreilles. La grosse dame, assise sur la clochette bleue, fut si attendrie qu'elle dut plusieurs fois s'essuyer les yeux avec le volant de sa robe, ne pouvant se servir de son mouchoir. L'homme au visage pâle assura que Dieu, en leur faveur, faisait resplendir le soleil. Alors, Liceron se prit à rire et lança, d'entre l'épais feuillage, un gland sur le nez de l'orateur.
« Oh, oh, il leur en compte vraiment des belles. Quoi, ce serait pour eux que luira mon père. »
Mais le prédicant était trop emballé pour remarquer ce gland qui avait eu l'air de jaillir du ciel. Il pérora, haussant la voix de plus en plus, si bien que son visage, qui avait passé au rouge, passa ensuite du rouge au bleu. Il brandissait les poings, hurlait que les feuillages en frémissaient et que les brins d'herbe s'agitaient, alarmés. Quand, enfin, il retrouva son calme, tous les assistants en chœur se remirent à chanter.
« Fui !» dit un merle du haut d'un arbre. « Quel odieux vacarme ! Je préfère un cœur que des vaches et des bœufs viennent dans le bois. Écoutez-moi ça. Fui !»
Or, les merles ont le renom d'avoir l'oreille et le goût délicat. Après ce concert, les chanteurs sortirent de leurs paniers, de leurs sacs, de leurs boîtes, des victuailles de toute espèce. On déplia des papiers, on distribua des petits pains et des oranges. Apparurent aussi des verres et des bouteilles. Alors, Liceron fit appel à tous ses camarades de la forêt afin d'assiéger les intrus. Une grenouille, pleine de bravoure, bondit dans le giron d'une vieille demoiselle, juste à côté du petit pain dans lequel elle s'apprêtait à mordre. La demoiselle poussa un cri perçant et, sans oser remuer, regarda, béante, l'animal qui restait là, accroupi, comme stupéfait lui-même de sa témérité. Il eut des émules. Des chenilles vertes couvrirent chapeau, mouchoir, gâteau, semant partout l'angoisse et la terreur. De grosses araignées s'affalèrent au bout de leurs filles, dans les verres de pierre et les chignons, en soulevant chaque fois de grands cris. Une multitude de moucherons harcelaient les hommes, pointaient en plein dans leurs visages, et, en souillant de leurs cadavres les mangelles, sacrifièrent même bravement leur vie à la bonne cause. Enfin, en rang épais, les fourmis vinrent assaillir l'ennemi aux endroits les plus imprévus. Quel désarroi! Précipitamment, tout le monde se leva, délivrant ainsi les herbes et les mousses opprimées. La clochette bleue fut sauvée grâce à l'assaut de deux perce-oreilles qui pincèrent la vieille demoiselle aux molettes. La déroute alla croissante. Hommes et femmes s'efforçaient, en gambadant et en gesticulant, d'échapper à leurs adversaires. Le prédicant résista longuement en frappant de sa canne autour de lui. Mais deux mésanges, qui ne jugeaient aucun moyen au-dessous d'elle, et une guêpe qui le piqua à travers l'étoffe de son pantalon noir, le mirent hors de combat. Le soleil, qui s'égayait fort à ce spectacle, ne voulut point demeurer étranger à la partie. Un lourd nuage assombrit le ciel. De larges gouttes tombèrent sur les belligérants. Ce fut alors comme si la pluie faisait jaillir d'énormes champignons. C'était la parapluie qu'on ouvra. Des femmes relevèrent leurs côtes par-dessus leurs têtes, découvrant ainsi leurs linges, leurs bas blancs et des souliers éculés. Liceron avait mal au cœur à force de rire et se cramponnait à une branche pour ne point tomber. L'eau s'abattait plus drue, par gerbes, ruisselant des parapluies, enveloppait les bois d'un voile gris scintillant. Les chapeaux hauts de forme et les dos noirs luisaient comme les ailes de l'escargot. Les semelles pataugeaient dans le sol détrempé. Alors les intrus, par petits groupes, muettes et résignées, se retirèrent, laissant derrière eux des papiers gras, des bouteilles vides, des pelures d'orange, comme des traces ignobles de leur passage. De nouveau, le calme régna dans la clairière, et bientôt, l'on n'entendit plus d'autre bruit que le murmure monotone de la pluie.
« Eh bien, Johannes, ce sont des hommes que tu viens de voir. »«
Et là, Liseron, tous les hommes leur ressemblent-ils ? »
Il y en a même de pires et de plus laides qui, dans leur frénésie, saccagent tout ce qui est beau, abattent les arbres pour mettre à leur place de lourdes bâtisses, piétinent à dessein les fleurs et, par divertissement, massacrent les bêtes. Dans les cités où ils grouillent, tout est sale, noir. L'air est empuanti de fumée et de poissons. Devenus étrangers aux races des créatures, ils jouent un triste et sot personnage dès que nous les revoyons dans la nature libre.
Et là, Liseron, et là.
Pourquoi pleurer? Va, ne t'afflige pas d'être né parmi eux. Je t'aime, Johannes, et ne t'ai-je pas choisi pour t'enseigner le langage des papillons et des oiseaux, t'apprendre de ce que dit le regard des fleurs? La lune sait qui tu es, et la terre, si bonne et si douce, t'aime comme son plus cher enfant.
Tu es mon ami, il est vrai, mais je ne puis m'empêcher de pleurer à cause de ces hommes.
Alors, dans les paroles de Liseron, dont émanait un puissant enchantement, Johannes entrevit tout un destin aux ineffables félicités.
Pourquoi donc ?
Rien ne t'oblige à retourner auprès d'eux si cela te chagrine. Tu peux demeurer ici et m'accompagner partout. Nous habiterons au plus profond des bois, dans les dunes solitaires et ensoleillées, parmi les roseaux de l'étain. Tu me suivras au fond des eaux, où nous nous glisserons entre les plantes marines, dans le palais des elfes et les trous de gnomes. Nous planerons au-dessus des campagnes, des forêts. Nous connaîtrons les contrées et les mers lointains. Je commanderai aux araignées de te tisser de fines vêtements. Je te donnerai des ailes pareilles aux miennes. Nous vivrons du parfum des fleurs et danserons avec les elfes au clair de lune. Ensuite, nous accompagnerons le soleil au pays de l'été. Là se dressent de sveltes palmiers, des grappes de fleurs éclatantes pendent aux rochers et le bleu profond de la mer resplendit dans la lumière. Et je te ferai tout le temps des contes. Veux-tu, Johannes?
Ne retournerai-je plus jamais parmi les hommes, Liseron?
Au milieu d'eux, ne t'attendent que des pans sans relâche. Tu gémiras sous le fardeau de la vie. Leur grossièreté sera pour ton âme délicate un incessant tourment. Ils te persécuteront jusqu'à ce que tu meures. Aimes-tu les hommes plus que moi?
Ah, non, Liseron. Je veux demeurer auprès de toi. »
Enfin, il pouvait donc témoigner combien il aimait Liseron. Il était prêt à tout oublier pour lui, sa chambrade, Prasto et son père. Ravi de joie et fermement décidé, il répéta « Prêt de toi seul. » La pluie s'arrêta. Par une échancrure des nuages, le sourire du soleil éclata sur les frondaisons mouillées. Des perles d'eau tremblaient au bout des feuilles et endiamantaient les toiles d'araignées tissées entre les branches des chênes. Au-dessus des broussailles, de longues buées s'élevaient, alourdies de senteurs, où flottaient des songes. Le merle se percha sur la plus haute cime et, d'une voix brave et profonde, salua le soleil à son déclin. Il semblait montrer quels accents s'accordent avec la majesté du soir, et dans le silence, l'égouttement des feuillages sur le gazon accompagnait en sourdine son chant.
Ces accents, Johannes, ne sont-ils pas plus beaux que les charivari des hommes?
Le mer, c'est le ton qu'il convient de prendre. Toutes choses sont ici d'une harmonie telle que jamais ailleurs tu n'en trouveras d'approchante.
Mais l'harmonie, qu'est-ce donc? Demanda Johannes.
C'est la même chose que le bonheur, la fin à laquelle tombe l'univers ainsi que l'homme. Mais celui-ci se conduit à l'exemple des enfants poursuivant un papillon et dont chaque effort pour le saisir ne sert qu'à le mettre en fuite.
Le goûterai-je auprès de toi, le bonheur, Liseron?
Oui, pourvu que tu saches oublier les hommes.
Ce fut mal commencé que de naître parmi eux. Mais tu es jeune, tu pourras encore effacer les souvenirs de ta vie passée. Parmi tes semblables, tu erreras pour succomber finalement sous les misères de la lutte. Il en adviendra de toi comme du hanneton dont je t'ai tout à l'heure conté l'histoire. Que lui est-il arrivé? Croyant apercevoir au loin la demeure de lumière, il prit son essor et se jeta à l'étourdi dans une salle dont les croisées étaient larges ouvertes. Des enfants l'y capturèrent. Tantôt on l'enfermait dans une boîte de carton, tantôt on l'attachait par un fil et on le contraignait à voler. Ces tourments durèrent 3 longs jours. Alors, sacrifiant une patte et une aile, il s'effada. En rampant sur le tapis, il s'efforçait d'atteindre le jardin quand une lourde semelle en chemin l'écrasa. « Que je te dise ici, Johannes, continua-t-il, que les animaux vivants dans les ténèbres ont, aussi bien que nous, pour père le soleil. Bien qu'il n'ait jamais vu sa face éclatante, ils portent, à leur insu, son image empreinte dans leur âme, et la lueur la plus fugitive a le don de leur évoquer cette lumière qu'ils ignorent. Ils se précipitent alors vers elle, et cet aveuglement pousse une multitude de créatures à une fin misérable. La même faiblesse entraîne les hommes. Ils poursuivent les apparences décevantes de la divine clarté dont ils sont issus et qu'ils ont oubliées. » D'un regard, Johannes interrogea Liceron, dont les yeux demeuraient profonds et mystérieux comme le ciel nocturne entre les étoiles. « Cette clarté serait-ce Dieu ? » demanda-t-il enfin, timidement. « Dieu !» Les yeux profonds sourirent avec douceur. « Je sais, Johannes, à quoi tu penses en prononçant ce mot. À la chaise au pied de ton lit où, le soir, tu t'agenouillais pour ta prière, au rideau d'un verre maussade qui voit les fenêtres du temple protestant, à la nez empesté d'haleine rance, aux lettres capitales de ta petite Bible, au sac de velours noir emmanché d'une longue perche que le margoulier promène en faisant sa quête, au chant discordant enfant. Ce que tu entends par ce mot, Johannes, est une parodie dérisoire qui ressemble à Dieu autant qu'au soleil un gros quinquin poisseux auquel vient s'engluer les moucherons. Mais comment dois-je nommer cette clarté et à qui dois-je adresser mes prières? La moisissure, Johannes, peut-elle demander le nom de la terre qui l'emporte avec elle dans son tourbillon? S'il existait une réponse, tu ne seras pas plus en état de la comprendre que le ver de terre le solennel cantique des sphères dans l'azur. Pourtant, je t'apprendrai à prier. » Et avec Johannes qui, dans un émerveillement silencieux, méditait ses paroles, Liceron s'élança dans les airs. Ils s'élevèrent si haut qu'il virent apparaître au-delà des dunes, à l'horizon, un long trait tout scintillant d'or qui sans cesse s'élargissait. Sous leur vol se dérobaient les dunes, irrégulièrement tachetées d'ombre et de lumière, et dont les verdures s'effaçaient ainsi que les champs de genêt et de chardon. Encore des dunes, puis une plage étroite et enfin la mer, vaste, démesurée, d'un bleu intense jusqu'au bord du ciel, où, sous le soleil déclinant, s'étendait un mince liseré d'une pourpre éblouissante. Au lointain, là où les eaux et le ciel se joignent, une ligne confuse, droite et arquée, visible et insaisissable à la voix, se devinait, semblable à un frémissement de harpe qui résonne mollement, défaille et pourtant demeure. Johannes était debout sur la crête de la dune, plongé dans un silence immobile. Il lui parut qu'il allait mourir, que les grandes portes d'or de l'univers s'écartaient et que sa petite âme s'élançait à la rencontre de la clarté infinie. À la fin, des larmes ruissellèrent de ses yeux. Le soleil sombra, voilant sous les crapes frissonnantes du soir la magnificence de la terre et du ciel. Alors Liceron dit « Voilà,
comment tu dois prier.